Alors bonjour aux auditeurs, vous êtes toujours sur Choc FM 105.1 avec moi-même Mylène Thériault, chroniqueuse au art et spectacle. Alors on s'entretient aujourd'hui avec Monsieur Peter Svatek qui va nous parler de son long métrage documentaire primé Theory of Life, qui est présenté pour 3 soirs seulement au cinéma Hot Dogs Ted Rogers, du 3 au 5 décembre, le 3 décembre à 21h, le 4 et 5 décembre à 18h30. Donc, bonjour, Monsieur Peter.
Bonjour.
Bonjour, Monsieur Svatek. Vous allez bien?
Oui.
Oui?
Oui.
Parfait. Je voulais, en commençant, si vous me permettez, faire un peu votre biographie pour les auditeurs qui nous écoutent, vous présenter un peu. Puis, par la suite, on pourra continuer là, sur le film et tout ça.
Oui.
Parfait.
Est-ce que vous voulez que j'explique un peu l'idée de film ou un peu
Je vais présenter un peu vous. Je voulais vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Donc, faire un petit peu le topo de votre carrière. Et puis après, on pourra continuer sur le film.
OK, pas de problème.
Parfait.
Oui.
Ou vous pouvez vous présenter vous-même aussi, si vous voulez.
Parfait.
c'est à votre choix.
Je fais depuis... je travaille longtemps au cinéma et je faisais au début beaucoup de fiction. Et contrairement à bien des réalisateurs, à un moment donné, j'ai décidé de me concentrer sur les documentaires. Et depuis 5 ans, ou même un peu plus, c'est surtout ça que je tourne. Par exemple, le film avant ça que j'ai fait, c'était un autre long métrage documentaire. Et le sujet, c'était Georges Saint-Pierre.
L'ADN de champion, c'est ça?
C'est ça.
GSP, l'ADN de champion.
Le champion de Mixed Martial Art, et c'était vraiment intéressant de le suivre pour un an et de faire un film sur sa carrière, sur lui. Avant ça, j'ai fait un film très différent qui était tourné en Argentine, et le sujet était les enfants qui volaient de la guerre civile en Argentine aux années 70. Parce que il y avait 50 000 personnes tuées, et parmi ça, il y avait plusieurs cent femmes enceintes qui étaient emprisonnées dans les camps de concentration, et avant d'être tuées, leurs gardes ont attendu avoir les enfants qu'ils ont volés eux-mêmes. Et élever les enfants comme leurs enfants biologiques. Et certains de ces enfants, qui étaient élevés par les militaires, ont considéré ces gens leurs parents. Ils savaient pas leur vraie histoire. Et quand ils l'ont appris, ils ont refusé de tourner le dos sur les gens qui ont donné pour eux de l'amour. Et c'était compliqué parce que ces gens-là étaient parmi les pires criminels de cette guerre-là. Donc, le sujet m'intéressait beaucoup. Et c'était un film pas politique, mais un film sur l'identité humaine, sur ces enfants-là qui, comme adolescents, parce qu'ils ont maintenant plus que 30 ans, avoir leur identité complètement explosée. Et tout ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes était des mensonges. Et donc, le film suit un peu ça. Donc, comme vous voyez, j'aime, en faisant des documentaires, des sujets vraiment larges, et de changer d'univers et de sujet à chaque fois que je fais un film.
Et très humain, social. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater avec le film que j'ai eu la chance de visionner ce matin. Voilà, vous pouvez nous parler du film Theory of Life, de quoi ça parle?
Avec plaisir. C'est le sujet du film est un chef, c'est pas tout le sujet, mais le début de l'idée, c'était un chef très connu italien, Massimo Bottura. Son resto à Modène en Italie cette année était nommé comme le meilleur resto au monde. Donc, il y a vraiment parmi les superstars de la haute cuisine mondiale. Et l'année passée, il y avait une expo, une exposition mondiale à Milan, en Italie. Et Massimo avait l'idée de faire une cuisine populaire. Et son idée, c'était de préparer tous les repas uniquement des restants de gaspillage des pavillons de l'expo pour faire un peu de publicité pour le problème de gaspillage de nourriture mondialement. Et il a invité 60 de ses amis, vraiment les meilleurs chefs au monde, comme Ferran Adrià, comme René Redzepi, Alain Ducasse, vraiment les chefs les plus renommés de venir le rejoindre. Et les repas qu'il préparait étaient pour les migrants qui, il y en a tellement à Milan et partout en Italie maintenant, les gens qui traversent la Méditerranée en bateau, les gens qui viennent de la Syrie et ailleurs, au Moyen-Orient. Donc, c'était assez intéressant. Et la chose qui m'a vraiment intéressé le plus, c'est qu'il m'a tout de suite frappé que ces deux univers, la haute cuisine, les superstars de la haute cuisine, et les gens qui ont vraiment faim, les gens vraiment en trouble, n'avaient rien à voir.
Ces deux. Deux mondes
Donc,
différents.
Donc, je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer quand ces deux mondes se touchent, et c'est un peu le sujet de fait.
C'est vraiment passionnant. Moi, j'avais pas d'attente en voyant ce film-là, je dois vous dire. Et puis, je m'attendais peut-être plus à la cuisine et tout ça. Et quand on est rentré dans les histoires aussi de ces gens-là, les itinérants, quand on suit quelques personnes dans leurs histoires personnelles, je trouve que ça donne un autre sens aussi au film.
Oui.
Très intéressant.
C'est absolument voulu. C'est exactement ce que je voulais faire, de rappeler au public que c'est bien beau. Et j'admire beaucoup ce que Massimo et ses amis faisaient. Mais au bout de tout ça, les problèmes des gens qui étaient là restent. Et ça m'intéressait beaucoup de le voir autant de leur point de vue que le point de vue des chefs.
Oui, tout à fait. J'aimerais dire une phrase, en fait, qui m'a marquée dans ce film, qui c'est sur le gaspillage alimentaire. 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont jetées chaque année à l'échelle de la planète, ce qui équivaut à un tiers de toute la nourriture produite. J'ai trouvé cette phrase très parlante dans ce long métrage qui nous fait réfléchir, en fait, sur le gaspillage et sur comment les méthodes qu'on peut utiliser pour le contrer.
Oui, c'est très important parce qu'il y a presque entre un tiers et la moitié de la nourriture produite est gaspillée. Et un des chefs, Alain Ducasse, quand même un chef assez connu, l'a dit très bien quand il a dit « Il y a 1 milliard de personnes au monde qui mangent trop et 1 milliard de personnes qui n'ont pas assez de manger. » Et voir ce problème, c'est vraiment une question de balance. Et ils ont essayé de faire quelque chose de positif avec la cuisine populaire et de attirer l'attention du public à ce problème.
Oui, tout à fait. C'est aussi un festin visuel en soi, parce qu'il y a vraiment plein de scènes de nourriture aussi qui viennent aussi attraper l'œil, si on veut, que j'ai trouvé intéressant dans ce film-là aussi.
Oui. C'était intéressant parce que les chefs qui, dans leur resto élite, peuvent travailler avec n'importe quel ingrédient qu'ils veulent, travaillaient avec le... Parce qu'il y a des lois en Italie, il n'était pas permis de travailler avec les restants des repas, ça veut dire de la nourriture déjà cuite. Il fallait travailler avec la nourriture crue. Et à l'expo, pour les pavillons, tout pour les restos, parce que le thème de l'expo était la nourriture, c'était nourrir la planète. Donc, plusieurs des pavillons, presque tous les pavillons internationaux avaient un resto où préparaient la bouffe pour le public. Donc, cette nourriture-là venait d'un supermarché de Milan. Et pour la nourriture pas utilisée, ils étaient retournés à leur entrepôt. Et ceux qui étaient envoyés à la cuisine populaire, qui appelait un réfectoire, réfettorio en italien, venait de cet entrepôt-là. Et à chaque matin, un petit camion blanc arrivait au réfectoire. Et le chef, parce que à chaque jour, il y avait un autre chef différent qui préparait les repas, ouvrait le camion pour découvrir avec quoi il allait travailler. Et pour ces chefs-là, ils sont tellement bons.
C'était une surprise à chaque fois.
Ils ont trouvé une façon d'improviser et de préparer quelque chose de bon avec ça.
Ah oui, la simplicité aussi des repas. Je me souviens d'un passage avec du pain, avec des oignons, on peut nourrir tout le monde et tout ça. J'ai bien aimé ce côté-là aussi. Oui. J'aimerais que vous me parliez aussi de... Moi, je suis comédienne et je connais pas beaucoup le documentaire. Et je me demandais combien de temps de tournage et comment ça se passe, tourner un documentaire. Est-ce que vous... Comment vous trouvez vos sujets?
Je suis content de parler de ça parce que, comme j'ai dit tantôt, ayant fait la fiction a vraiment une façon de prendre une vision pour un réalisateur, de prendre une vision, assembler une armée des comédiens, de l'équipe et tout le monde pour financer le film et tout ça, pour essayer de mettre cette vision à l'écran. Faire un documentaire, pour moi, de toute façon, c'est plutôt un voyage de découverte. J'essaie vraiment de commencer vide, sans idée, sans préconception, sans savoir où je vais aboutir. Et j'adore ça. Ça devient comme un voyage dans la vie pendant le tournage. Et plutôt que tourner avec une cinquantaine de personnes, je tourne avec deux, trois personnes. J'adore ça.
Ouais, c'est l'équipe réduite.
Et avec des gens qui sont assez ouverts de me permettre de rentrer dans leur vie et de partager des choses vraiment personnelles avec le film. Donc, pour ce film-ci, je suis allé à Milan. L'expo durait de avril à novembre, 6 mois, l'année passée, en 2015. Et je suis arrivé à Milan en mars. Et j'avais trouvé une femme qui avait jamais travaillé dans le film. C'était une traductrice, mais je trouvais serait intéressant pour m'aider à trouver les histoires, tu sais, parce qu'on a cliqué bien ensemble. On a travaillé 2 mois. À aller de refuge en refuge pour découvrir les gens qui allaient participer au réfectoire et voir des gens qui seraient d'accord qu'on filme leur histoire. Et on a commencé à filmer même avant l'ouverture de l'expo. Et une fois que c'était commencé au réfectoire, on a filmé pour peut-être 2 mois.
Okay.
Et quelque chose m'est arrivé en Argentine il y a quelques années. En revenant de tournage et en montant, j'ai découvert au bout de quelques mois de travail que j'avais pas ce qu'il me fallait pour le film. Donc même si on n'avait pas beaucoup d'argent, on est retourné en Argentine pour faire un deuxième tournage beaucoup plus court. Mm-hmm. Mais puisque cette fois-là, je savais ce qui me manquait, presque tout ce que j'ai tourné dans le deuxième voyage et dans le film. Donc, depuis là, je planifie toujours 2 tournages. Je me donne l'occasion de revenir et commencer le montage pour découvrir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et j'ai travaillé avec un monteur incroyable, un Français qui est au Québec depuis longtemps. Il s'appelle Elric Robichon. On a travaillé pendant l'été un premier montage de film, et là, je suis retourné vers la fin de l'expo pour compléter le tournage. Donc, en tout, c'était 6 mois, mais c'est pas comme si on tournait tous les jours.
Non, non, c'est ça, vous avez fait des allers-retours et vous avez montage et tout ça, donc sur
mais
place.
Mais on a tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qui est dans le film. J'ai tourné peut-être 100 fois plus qu'il y a dans le film final.
Wow.
Je me permets ça parce que maintenant, aujourd'hui, avec l'équipement, est tellement peut-être et pas coûteuse
mm-hmm.
que l'équipement digital qu'on peut se permettre de faire ça. Ça fait une grande chance pour le montage,
oui.
mais je trouve que ça vaut la peine.
Oui, et puis je voulais savoir plus précisément comment vous faites pour aborder les gens, comment vous tournez, j'essaie de bien formuler ma question,
mm-hmm.
comment vous trouvez les bons sujets?
C'était Massimo est un chef
mm-hmm.
et il savait rien des cuisines populaires. Donc, il a tourné à l'église.
Okay.
Et Caritas, qui est le bras charitable de l'église mondialement.
Mm-hmm.
Et donc, moi et Elena, la femme dont je parlais tantôt, on a approché Caritas pour expliquer ce qu'on voulait faire, demander s'il était prêt à nous présenter du monde, voir si on pourrait trouver des histoires, ce qu'on a fait. Mais il faut dire que, parce que je trouve que les gens sont très honnêtes dans le film,
mm-hmm.
ils nous parlent de ce qui est vraiment important pour eux.
Exactement, c'est quand même quelque chose là, de dire, OK, je vais rentrer dans votre vie. Et
mais c'est une
filmer.
Question de temps et de confiance.
Mm-hmm.
C'était pas le premier jour qu'on a pu tourner certaines scènes avec eux. Fallait gagner leur confiance et vice versa.
Mm-hmm.
C'est qu'on se connaît un peu. Et puisque l'équipe était très petite, et l'autre chose que j'aime faire, surtout quand je tourne dans un pays étranger avec une langue que je parle quelques mots d'italien, mais je ne parle pas la langue
mm-hmm.
couramment, j'ai décidé de travailler avec une équipe italienne. J'ai trouvé des jeunes, un cameraman spectaculaire en italien qui a juste 28 ans, qui a fait juste quelques documentaires, mais quand j'ai vu son travail, j'ai dit, c'est le gars pour moi. Et quand je l'ai rencontré, j'étais certain. Parce que la personnalité de tout le monde compte beaucoup dans
oui.
une situation comme ça.
Oui.
Et on était une petite équipe, mais une équipe très heureuse. Là, on s'aimait, on a eu de fun, et on a vécu des situations difficiles avec les gens qui vivaient des choses difficiles.
Mm-hmm. Sûrement.
On avait un respect mutuel et finalement, je trouve que ça marchait. Et honnêtement, juste comme personne, pas comme cinéaste, mais comme personne, l'occasion, la chance de faire quelque chose comme ça, juste comme expérience de la vie, vraiment quelque chose.
C'est extraordinaire, en fait. Je le pense, de pouvoir avoir la chance de faire des films comme ça et de les présenter, en fait. Donc, c'est une production aussi, une coproduction avec l'ONF et
oui.
Triplex Film et l'association avec Phi Film aussi de
oui.
Montréal.
Oui, ben Triplex Film, c'est moi-même mm-hmm. et ma femme qui est productrice, Josette Côtier.
C'est ça, c'est votre compagnie.
Et l'ONF, quand Massimo, parce qu'on connaissait un peu Massimo, c'est comme ça que le film s'est arrivé,
okay.
parce que ma belle-fille, ça veut dire la fille de ma femme, est mariée avec un Italien de Modène qui connaît Massimo depuis l'enfance.
Ah.
Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré.
L'histoire du film.
Et j'avais l'idée de faire un film avec lui, mais ça n'aboutissait jamais. Et un jour, il nous a appelés à Montréal pour dire... C'est ça que je vais faire pour l'expo. Penses-tu que ça pourrait faire un bon film? J'ai dit, you bet! J'aimerais bien faire ce film. Et là, j'ai approché l'ONF, avec qui j'avais pas tourné depuis très, très, très longtemps,
mm-hmm.
voir s'ils seraient intéressés. Je craignais que non, parce que je craignais qu'ils allaient penser que c'était juste un film sur les chefs connus
ouais.
et qui serait un sujet moins intéressant pour l'ONF. Et ils m'ont posé cette question, mais quand j'ai expliqué ce que je voulais faire, ils ont décidé d'embarquer presque tout de suite, et ils étaient incroyables. Faut dire que on n'apprécie pas suffisamment au Canada l'Office national du film. C'est une institution...
Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous là, sur ce point.
Incroyable.
Je viens de Montréal.
ils sont vraiment là pour faire des films. Peut-être ils ont pas beaucoup d'argent, mais ils prennent l'argent qu'ils ont et ils font de leur mieux de trouver des sujets intéressants et de backer les
supporter
les cinéastes canadiens. Ouais. C'est vraiment, c'était vraiment great. La coopération et l'appui et l'argent et tout ce qu'ils nous ont donné. Et c'était la création aussi, parce que c'est pas juste une source de financement, c'était vraiment un appui profond au film et je l'apprécie beaucoup.
Parfait. Bien, c'est tout le temps qu'on a. Je vais rappeler aussi que le film est à Toronto, il sera à Montréal, à Québec, Edmonton, oui, et Vancouver aussi.
Oui, et aussi à Edmonton et peut-être une couple d'autres villes
qui vont
Canada.
Peut-être se rajouter.
Ailleurs, ça passe cette fin de semaine. Je suis un peu triste que ça passe juste pour 3 jours, mm-hmm, à Toronto.
C'est 3 jours, oui.
À Montréal, ça va jouer avec les sous-titres en français parce que la plupart des films sont en italien, mm-hmm, au Beaubien, mm-hmm, et en anglais avec les sous-titres anglaises au cinéma de Parc. Et ils ont garanti 2 semaines. Pour les autres villes, je ne sais pas si ça va jouer longtemps ou pas, mais au moins un peu plus longtemps à Montréal,
oui,
et à Québec aussi.
Oui, 2 semaines, c'est quand même bien là, pour un documentaire.
Oui.
Dans une salle, là, c'est bien.
Oui.
C'est très bien.
Ben, à Toronto, vous avez quelque chose d'assez spécial qu'on n'a pas à Montréal, qui est un cinéma dédié au...
Oui, seulement au documentaire, oui.
Oui, c'est bien parce que je sais pas d'autres villes qui fait ça. Je trouve ça très bien.
Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, monsieur Zvatek, de nous avoir parlé aujourd'hui et d'avoir fait ce film aussi. Je trouve que c'est un film... vraiment, les gens, on va rappeler les dates. Donc, le 3 décembre à 21h, le 4 et 5 décembre à 18h30 au cinéma Hot Docs Ted Rogers. Alors, okay. je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation pour vos
Merci.
Prochains films.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.